sur les besoins spirituels des personnes en soins palliatifs. Voilà. Et un autre, 15 jours pour prier avec frère Luc. Alors, on avait parlé de frère Luc il y a un an ou deux, je ne sais plus. Et je vous propose de le confier à la Vierge avant de commencer son intervention. Je vous salue, Marie.
Puis nous demandons aussi l'aide de l'Esprit Saint pour qu'il nous donne sa lumière. Oui, viens, Esprit Saint, Esprit du Père et du Fils, Esprit de vérité et d'amour. Viens illuminer notre intelligence, viens fortifier notre volonté, viens habiter notre mémoire. Conduis-nous à la vérité tout entière, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, chers confrères, chers frères dans la foi, c'est une grande joie de vous retrouver après 2 ans. Je vais donc vous parler aujourd'hui parce que c'est une demande que m'a faite Vincent et je le remercie pour cette proposition. Apparemment, c'était aussi une question qui était portée par l'ensemble des soignants. Voilà le burn-out, l'épuisement des soignants, l'épuisement des médecins. Et donc cette problématique effectivement est importante. Alors elle a été traitée par un livre très intéressant par Pascal Hyde. Le père Pascal Hyde a traité ce sujet, on vous l'a dit ce matin, sur ça s'appelle le burn-out, une maladie du don. Donc je vous conseille cet ouvrage qui est un ouvrage très systématique, comme c'est aussi le faire Pascal Hyde, d'avoir fait une recension de tous les livres qui existaient un petit peu sur le sujet, d'en faire une très belle synthèse. Donc, je ne vais pas reprendre dans le détail cet ouvrage, parce que c'est pas ce que vous attendez. C'est plus, finalement, l'expérience aussi d'un frère médecin. Et le positionnement qui sera le mien sera comprendre qu'est-ce qui peut se passer dans le burn-out d'un soignant, mais surtout proposer un éclairage spirituel pour un accompagnement spirituel. Donc c'est aussi surtout le frère prêtre qui parle aujourd'hui. Comment aussi c'est une approche qui est théologico-pastorale, c'est-à-dire que nous allons voir des notions d'anthropologie, des notions aussi de théologie, et comment aussi la théologie peut éclairer la pastorale, comment aussi la pastorale peut poser des questions à la théologie, et dans ce va-et-vient, avoir des clés aussi de compréhension. Voir aussi le burn-out, l'épuisement des soignants, avec l'aide d'un frère, d'un grand frère dans le ciel, frère Luc. Frère Luc de Tibérine, vous savez, qui a été joué de manière très belle par Michael Lonsdale. J'ai eu la grâce de pouvoir donc écrire ce « Prier 15 jours » avec Frère Luc, qui était vraiment un confrère qui soignait plus de 100 patients par jour, vous savez, à Tibérine. Avec, vous avez tous vu le film « Des hommes et des dieux ». Ce livre, d'ailleurs, aussi est en audiolivre lu par Michael Lonsdale lui-même. Donc, je vous le conseille aussi, cet audiolivre. Il y a des extraits inédits aussi de lettres de Frère Luc qui sont aussi tout simplement magnifiques, en plus de se prier 15 jours. Et donc, je vais vous lire aussi des extraits de Frère Luc qui a eu parfois des épisodes aussi de lassitude, des épisodes d'épuisement. Et comment aussi, avec sa vie de foi, éclairé aussi par l'aide de l'Esprit Saint, il pourra aussi nous donner des clés pour avancer. Parce que le principe aussi, c'est donc je vais vous parler pendant à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure, et puis après il y aura un temps d'une demi-heure de questions-réponses, et après vous vous retrouverez ensemble par petits groupes. Pour le but, c'est de susciter le questionnement et que vous puissiez après vous retrouver pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure, pour pouvoir aussi échanger sur le sujet. Alors je commence par cette phrase de Frère Luc qui est très belle. qui montre aussi l'épreuve qu'il a pu avoir, comme un peu chacun et chacune d'entre nous, cette épreuve de la solitude du médecin. Voilà ce qu'il dit. Le médecin est le plus souvent seul. La certitude qu'il demeurera seul avec le patient qu'il soigne, seul avec lui-même, rencontre de deux solitudes. Tout homme lucide est angoissé. Est-il souhaitable que l'homme perde son angoisse ? La lassitude, certains jours, envahit mon âme. Voyez comment ce... il n'est pas encore saint, hein, frère Luc, j'espère qu'un jour il le sera avec tous ses frères. En tout cas, il a le témoignage aussi du martyr, du témoignage du martyr de la charité, mais en tout cas de quelqu'un qui aussi a donné sa vie aussi pour les autres. Comment il peut vivre cette forme de lassitude, d'épuisement à travers aussi son exercice professionnel, quand bien même il serait aussi porté par un idéal. Et comment... je viens d'apprendre que je n'ai plus que 3/4 d'heure. Nous allons y arriver. comment, en fait, frère Luc aussi a pu parfois aussi expérimenter des signes de pré-burnout. Burnout, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, être grillé, s'épuiser, et on peut le comprendre avec plus de 100 consultations par jour. Comment il a pu expérimenter même des signes du burn-out qui sont bien expliqués par Pascal Hyde dans son ouvrage, et encore une fois je ne vais pas le développer, mais je vous dis les signes essentiels qui sont un épuisement émotionnel, une dépersonnalisation, c'est-à-dire une sorte de désengagement professionnel, et puis aussi un sentiment de diminution de l'accomplissement personnel. Comment frère Luc, vous voyez, a expérimenté tout ça comme nous pouvons aussi l'expérimenter nous-mêmes. Vous savez aussi quels sont les signes de ce burn-out, qui sont des signes d'épuisement, d'irritabilité, d'agressivité, de tristesse, d'anxiété, avec parfois aussi des difficultés à se concentrer, parfois aussi même des manifestations psychosomatiques, des maux de dos, maux de ventre, voire d'ulcères, maladies coronaires, diabète de type 2, troubles du sommeil, voilà. Tout ça encore, vous le retrouverez dans le livre de Pascal Hyde, beaucoup plus développé, mais il est important aussi de repérer un petit peu ces symptômes pour pouvoir aussi se dire, ben tiens, où est-ce que j'en suis moi-même personnellement ? Peut-être, alors il faut le dire aussi avec beaucoup de délicatesse, peut-être que certains d'entre vous aussi ont vécu aussi déjà un burn-out. Et donc il s'agit aussi pour moi de présenter aussi cela avec beaucoup de délicatesse. Mais peut-être aussi que, finalement, comme on dit, bienheureuse faute, peut-être on pourrait dire aussi bienheureux burn-out, qui nous permet aussi de comprendre qu'il y avait peut-être un chemin de conversion à trouver. Peut-être une nouvelle voie, une nouvelle manière de vivre. Je cite là encore frère Luc, « Il faut passer par un vrai désespoir pour arriver à la relation avec Dieu. » Il faut désespérer de tout, de notre qualité morale, de nos vertus, de notre organisation ecclésiale, de notre doctrine. Il faut passer vraiment par la mort. Et dans cette situation de mort, de désespoir absolu, il ne nous y reste qu'une personne, le Christ. Et si l'on se tourne vers lui, c'est alors lui ouvrir. Et à partir de ce moment-là, commence un autre mode d'existence, on peut marcher sur les vagues. Vous voyez comment parfois aussi l'expérience de nos limites, comment l'expérience de notre finitude peut être l'occasion en fait de nous tourner vers Dieu et de faire, on va le voir, une sorte de révolution copernicienne pour vivre un vrai chemin de conversion. Alors reconnaissons qu'aussi, eh bien nous sommes presque ceux qui sont les plus à risque, les sujets les plus à risque pour un burn-out, nous qui sommes soignants. De part aussi de notre formation, de notre positionnement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'intervention d'Hubert Tesson il y a 2 ans, où il nous disait que comme médecin, souvent, il y a 2 positionnements que nous avons. Un positionnement qui serait de l'ordre du savoir et de l'autre aussi du pouvoir. Comme si nous devions être de ceux qui savent tout pour répondre à toutes les questions, comme ceux qui devraient être de ceux qui peuvent tout par rapport à une situation donnée, à une maladie donnée. Et reconnaissons aussi que dans notre cursus médical, nous sommes aussi un peu formés à cela. À cela s'ajoute aussi parfois, on pourrait dire, une recherche un petit peu de soi, on pourrait dire des constructions qui peut-être nous empêchent justement d'accepter aussi une part de vulnérabilité en nous. Comme si notre positionnement médical faisait en sorte que, eh bien, il faut que nous soyons dans une forme de toute puissance. Comme s'il fallait que nous soyons dans un monde sans faille. Comme s'il fallait aussi que, vous voyez, il y a plusieurs risques d'une juste distance qui ne soit pas telle, peut-être bien trouvée. Le risque de ne pas accepter la différence de l'autre. Nous sommes dans un milieu professionnel, voyez, qui encouragerait cette toute-puissance, qui encouragerait le fait d'être sans faille, de ne pas le montrer, et puis cette difficulté aussi de trouver aussi cette juste distance. Aussi, eh bien, il nous est bon d'accepter notre pauvreté, notre vulnérabilité, d'accepter justement que nous ne sommes pas sans faille, d'accepter que nous ne savons pas tout, d'accepter aussi, eh bien, que nous ne sommes pas tout puissants. Et c'est ce que nous allons un petit peu voir ensemble, avec une approche qui est une approche qui s'appuie sur l'anthropologie personnaliste. Cette approche personnaliste, qui est une approche donc philosophique avec des philosophes du XXe siècle comme Emmanuel Mounier, Gabriel Marcel, et puis bien sûr Carole Voschila, futur Saint Jean-Paul II. Et donc nous allons aussi voir la personne dans son unité, la personne comme corporéité. Tout à l'heure, Pascal Hyde parlait du visage comme manifestation du cœur. Eh bien, le personnalisme, avec ce concept de corporéité, dit que le corps est la manifestation de notre âme. Le corps est l'épiphanie de notre âme. Donc nous sommes loin d'un dualisme avec d'un côté le corps-machine et de l'autre l'intelligence qui guiderait tout. Non, nous voyons le corps dans son unitotalité, corps-âme bien uni, avec cette approche, cette corporéité. Et nous allons voir aussi, eh bien, qu'est-ce qui caractérise aussi une personne ? Une personne, elle est caractérisée par trois choses. La personne est identité, communion et participation. Ce que je vous dis là, vous pourrez le retrouver en détail dans l'accompagnement de la personne en soins palliatifs dans sa deuxième partie, hein, la partie anthropologique. On va développer. La personne est identité, c'est-à-dire qu'elle est unique, irrépétable. Chacun de nous dans cette assemblée est unique, non seulement du fait de son patrimoine génétique, mais quand bien même il y aurait des jumeaux ici, leur histoire aussi est différente. Chacun de nous est sacré aussi, cette vie est sacrée, la vie est toujours un bien, du début de son existence à sa fin. La personne aussi est communion, c'est-à-dire qu'elle est faite pour la relation. Un « je » se construit toujours par rapport à un « tu ». On parlait du regard ce matin, eh bien notre « moi » s'est construit par rapport au « tu » de notre maman. C'est parce que notre mère nous souriait que nous avons commencé à lui sourire, et c'est parce que nous avons vu qu'en souriant, elle souriait, dans cette relation, eh bien, qu'un échange s'est fait. La personne aussi est participation. Nous sommes faits pour participer ensemble au bien commun. Nous sommes faits pour chacun apporter cette petite pierre à l'édifice. Alors, la personne, effectivement, est identité, communion et participation. Mais, eh bien, elle peut être aussi blessée à un de ces trois niveaux. C'est là où je vous dis qu'il faut accepter que dans notre histoire, il y ait pu y avoir des blessures. Notre histoire humaine n'est pas sans faille. Permettez-moi là encore de citer aussi Frère Luc sur la pauvreté, quelle qu'elle soit. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre. Heureux ceux qui acceptent de se laisser critiquer par la parole de Dieu. Heureux ceux qui acceptent de remettre leurs idées en question. Heureux ceux qui acceptent de croire qu'ils n'ont encore rien compris. Heureux ceux qui savent accepter de penser que Dieu peut tout demander. Le premier appauvrissement que Dieu nous demande, c'est de renoncer à l'idée que nous nous étions faites de la pauvreté. Notre pauvreté sera faite de nos quotidiennes désinstallations dans la joie, incertitude du lendemain qui réclame une très grande confiance en Dieu. L'homme qui se vide, quand l'homme se vide, il y a place en lui pour l'action de Dieu quand il se confie comme un pauvre. Pauvreté égale incertitude égale confiance. Voyez, c'est finalement accepter aussi de rentrer dans la petite voie, accepter eh bien, que notre histoire ne soit pas limpide, accepter que eh bien, nous soyons tous blessés d'une manière ou d'une autre à un de ces trois niveaux. Alors, Jean-Paul II a une très belle phrase dans une méditation sur le don désintéressé le 8 février 1994, que vous retrouverez dans ce livre à la page 56, où il dit, il sent qu'il allait avoir beaucoup d'âmes qui lui seraient confiées, comment il devait aussi, profondément respecter chacun et l'accueillir comme un don. Et voilà ce qu'il dit. Je n'userai pas. Je ne détruirai pas, je ne diminuerai pas, je mettrai en évidence. Totus tuus. Il faut être totalement un don désintéressé pour reconnaître en chaque personne ce don qu'elle est, afin de remercier ce don de la personne au Créateur. Donc, voyez, Jean-Paul II, par cette phrase très courte, ces quatre verbes qu'il nous donne aussi une clé de compréhension. Il dit, je ne détruirai pas. Je ne détruirai pas. Voyez, la personne qui est sacrée, de son début à sa fin, peut parfois expérimenter dans son existence le fait eh bien, de ne pas être accueillie. Il y a ce verset biblique qui me revient, voilà. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ce caractère sacré de la personne peut parfois être refusé au début de son existence en raison d'un handicap. Ça peut être aussi le fait que la personne soit aussi peut-être traumatisée, intrusée, battue. Comme si aussi cet amour, alors que la personne attendait de l'amour, parce qu'elle est faite à l'image de Dieu, elle est faite pour un amour infini, et cet amour, finalement, a été trahi. On pourrait résumer un petit peu comme ça. Amour trahi, ou alors il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Vous voyez, premier type de blessure qui touche à l'identité. La communion, donc, nous sommes faits pour la relation. Nous sommes faits pour être aimés. Et Jean-Paul II explique que, eh bien, le verbe user est opposé au verbe aimer. Il y a derrière cela cette notion d'utilitarisme, comme si, eh bien, la personne, finalement, était utilisée. Voyez? Je ne suis finalement pas aimé pour ce que je suis, mais ce que je fais. Voilà le deuxième type de blessure touchant à la communion. Je ne suis pas aimé pour ce que je suis, mais ce que je fais. Et puis, la blessure touchant à la participation, eh bien, c'est le fait que Jean-Paul II décrit deux systèmes, deux idéologies, on pourrait dire, l'individualisme et l'autoritarisme. L'individualisme, on le comprend très bien, un père qui serait surinvesti dans son travail, eh bien, il laissera de côté sa famille, par exemple, au détriment du bien commun familial. Ou l'autoritarisme, quelqu'un qui serait tellement autoritaire, des parents tellement autoritaires, qu'aucun avis ne peut être prononcé. Il n'y a pas de non possible, il n'y a pas d'affirmation possible. D'une certaine manière, on pourrait résumer cette blessure touchant à la participation. Mon avis n'a pas d'importance. Vous voyez, là, on est tous blessés d'une manière ou d'une autre sur un de ces trois points. Parce que, encore une fois, on était fait pour recevoir de l'amour et on a été, du coup, nécessairement, par les circonstances de la vie, ou par les blessés sur un de ces trois niveaux. C'est pas tant de la psychologie que je suis en train de vous dire que tout simplement, vous voyez, comprendre ce qu'est l'homme, comment on pourrait dire il est fait, comment il fonctionne et comment il peut y avoir une blessure à l'un de ces trois niveaux. Je vous le dis déjà aussi, du point de vue pastoral, lorsqu'on a identifié une blessure comme celle-ci, une prière de consolation est possible. Si on a repéré une de ces trois prières, une prière de consolation, une prière des frères, comme elle est faite aussi ici, mais orientée vraiment pour que le Seigneur vienne mettre de l'amour là où il a pu manquer de l'amour, permet eh bien, au Seigneur de mettre son baume consolant, mais il s'agit pour cela eh bien, d'identifier la blessure initiale qui là, vous comprenez, on est dans la part d'innocence de la personne. La personne attendait de l'amour et finalement, eh bien, elle n'en a pas reçu comme elle l'attendait. Voilà pour la blessure d'innocence, on va marquer ça ici, innocence, blessure d'innocence. Blessure d'innocence. Sur cette blessure, il peut y avoir parfois comme une surinfection, comme une blessure, si on ne la soigne pas, eh bien, il peut y avoir une surinfection sur cette blessure. Alors, j'ai pas trop le temps de développer, hein, si vous voulez aller un petit peu plus en détail pour comprendre aussi l'argumentation et tout ça, encore une fois, vous avez toutes les citations, vous retrouverez dans le livre. Normalement, c'est un cours que je donne sur 7 heures. Donc, vous imaginez, là, on va faire ça en 45 minutes. Je comprends que ça aille un peu vite. Mais on va essayer de garder les lignes principales. Hein. Donc, Jean-Paul II aussi, il y a une phrase qu'il cite tout le temps. C'est Gaudium et Spes 22, où il dit « L'homme, seule créature voulue pour elle-même, ne se trouve pleinement que dans le don désintéressé de soi. » Et comment la personne se donne? Eh bien, il y a trois caractéristiques dans ce don de soi. La personne se donne lorsqu'elle pose un choix d'amour, dans une éthique de communion, c'est-à-dire « je cherche toujours le bien de l'autre, ton accomplissement est mon accomplissement », c'est ça l'éthique de communion, dans une recherche aussi de la vérité, dans un engagement dans la fidélité, dans la vérité, dans l'authenticité de cet engagement, et toujours ouvert à la vie, à l'accueil de la vie. Encore, je n'ai pas le temps de citer toutes les citations de Jean-Paul II qui expliquent aussi cela, mais vous pourrez le retrouver sur le livre. Donc, c'est comme s'il y avait un trépied. Pour que la personne se donne, pour que ce don soit sincère, il faut toujours qu'il y ait un choix d'amour, de vérité et de vie. S'il manque un de ces trois pieds, c'est bancal et ça ne tient pas. Vous imaginez que l'opposé de l'amour, c'est la haine. Haïr une personne, c'est haïr finalement l'ensemble de l'humanité. Haïr son père, c'est finalement haïr toute figure paternelle. tout représentant paternel, qui peut être aussi mon patron, par exemple. L'inverse de la vérité, eh bien, c'est le mensonge. Et puis, on parlait de la fidélité dans l'engagement, eh bien, ce sera l'infidélité dans mon engagement, en particulier ma vocation, que ce soit la vie consacrée ou à la vocation au mariage. Et l'opposé de la vie, c'est la mort. Un choix de mort, qui peut être soit vis-à-vis de l'autre, c'est rare, mais ça peut arriver, hein, dans un choix... d'avortement ou soit aussi ou dans une contribution à soit aussi dans un choix d'autodestruction, donc un choix de mort décidé personnellement. Comment donc ça s'articule? Ben vous avez vu, donc ça vous comprenez que ça touche la part de la, c'est ma part de responsabilité là. On n'est plus dans l'innocence, là. On est dans la part de responsabilité. Je reprends l'exemple de la blessure en lien avec l'identité. Si, par exemple, un enfant a été battu, il n'a pas été respecté dans son identité, battu par son père, il peut très bien ne pas poser de choix, de mort, de haine ou de mensonge. Il peut y avoir, sur cette blessure, une surinfection qui sera peut-être un choix de haine vis-à-vis de son père, en disant, puisque c'est comme ça, j'ai plus de père. Et de se couper de cette relation, du coup, avec ce père. Jean-Paul II nous dit que poser un choix d'amour, de vérité et de vie, c'est s'unifier. C'est finalement, plus je pose des actes bons, plus je me bonifie, plus je m'humanise. En revanche, si je pose un choix de haine, ou de mort, ou de mensonge, je pose, tel que je vous l'ai décrit, un acte intrinsèquement mauvais, tel qu'il est décrit dans Veritatis Splendor, vous verrez aussi les détails de ce que c'est qu'un acte intrinsèquement mauvais, mais c'est-à-dire que toute la personne est engagée. Autant la personne peut effectivement s'engager dans un choix d'amour, de vérité et de vie, comme dit Jean-Paul II, personne et acte, toute la personne est engagée, mais aussi, et elle s'unifie en faisant cela, mais en posant un choix de haine ou un choix de mort, elle peut aussi complètement s'engager dans l'acte. Quand je pose un acte, c'est toute ma personne qui est engagée. Et donc, là, non plus s'unifier en posant un acte de haine, de mort et de mensonge, elle va se désintégrer. Elle va se désintégrer, en fait. Et donc, vous comprenez que, avant de vouloir prendre soin des autres, si je n'ai pas réalisé où est-ce qu'est ma blessure initiale, et là, que le Seigneur vienne faire, me visiter à ce niveau-là, faire une prière de consolation. Il n'y a que lui qui peut mettre de l'amour, là, il a manqué de l'amour. Et vous comprenez aussi que pour un acte que j'ai posé, qui engage ma responsabilité, ou en posant un acte intrinsèquement mauvais, il se crée comme un lien spirituel, c'est-à-dire comme une sorte d'effet jokari, j'avance dans ma vie humaine et spirituelle, mais je reviens en arrière. J'avance dans ma vie humaine et spirituelle, mais je continue à revenir en arrière. J'arrive pas à me sortir. Quand il y a cet effet jokari, c'est qu'il y a un lien spirituel, soit de haine, soit de mort, soit de mensonge. Et seul Dieu peut couper ce lien avec ce qu'on appelle une prière de délivrance. Et ça, c'est plus le prêtre qui est mandaté pour cela. Autant une prière de consolation peut être faite par un baptisé, laïque, autant la prière de délivrance, normalement, relève de l'acte sacerdotal, mais même aussi le prêtre doit normalement aussi demander la permission à son évêque pour le faire, ou au moins en rendre compte. Donc, c'est un chemin donc de consolation que nous devons vivre, et puis aussi de libération intérieure. Vous voyez, pour pouvoir aussi que rien ne nous empêche de pouvoir nous donner. Vous comprenez qu'une personne qui est prise par un choix mortifère, par un choix d'infidélité, un choix de haine, eh bien, ça aura des répercussions dans sa vie humaine et professionnelle. Alors, je vais encore un peu plus loin, en montrant aussi que nous pouvons mettre en place des mécanismes de survie à partir de ces blessures initiales, notre part d'innocence. Nous avons pu, comme finalement, mis en place une machine à acheter de l'amour à partir de ces blessures initiales. Alors, je ne vais pas pouvoir tous développer, mais ce que je peux dire, c'est que du fait de notre formation, du fait aussi de la sélection qu'il peut y avoir en médecine à l'heure actuelle, avec un concours, avec un numerus clausus, du fait aussi de ce que nous sommes appelés à vivre plus tard, de prendre soin des personnes, la plupart d'entre nous, je dis bien la plupart, pas tous, mais je pense parler à 80% des personnes, c'est pour ça que je vais développer plus ces profils, nous sommes dans la blessure de l'ordre de la communion. Je ne suis pas aimé pour ce que je suis, mais ce que je fais. Je ne suis pas aimé pour ce que je suis, mais ce que je fais. Je n'ai pas été aimé pour ce que j'étais, mais ce que je faisais, mais encore aujourd'hui. Et ça se déploie, du coup, de trois manières. Ça pourra se déployer de la manière suivante. Donc, je ne suis pas aimé pour... Je dois donc, puisque je ne suis pas aimé pour ce que je suis, mais ce que je fais, je dois donc faire pour être aimé. Et comment s'exprime ce faire ? Eh bien, il se déploie, on pourrait dire, de trois manières, là encore. La première manière, c'est, eh bien, il faut que je fasse tout bien. Il faut bien faire, une forme de perfectionnisme. Bien faire. Il faut que je fasse bien, mais le problème, c'est que je serai du coup, puisqu'il faut toujours que ça soit bien, je serai toujours hyper exigeant. Ce sera jamais assez bien. Il faudra que je n'ai jamais fini mon travail. Quand je vois aussi, je vois quelque chose de bien fait, un gazon par exemple qui est tondu, mais je vois la petite touffe là qui dépasse. Et ça m'énerve. Et donc, le perfectionniste, si vous voulez, un rien va aussi l'épuiser du coup. Parce que ce sera jamais assez. C'est comme si la barre était chaque jour un peu plus haut. Au début, il la passait, la machine à acheter de l'amour marchait bien, il était l'enfant bien sage, tout allait bien. Et puis à un moment, la barre... Et du coup, c'est une sorte de mécanisme de survie et pas de vie. Hein? Et donc, au final, quelle est aussi la conséquence ? Il y a une forme de... Puisque je suis tellement exigeant avec moi-même... Mais je vais devenir hyper exigeant avec les autres. On peut parler d'un manque de compassion. Un manque de compassion qui commence d'abord par soi. Hein. On peut être hyper dur avec soi-même. Des fois, j'ai des personnes qui se maltraitent, j'ai presque envie de dire, tellement elles sont exigeantes avec elles-mêmes. Cette fameuse obligation de résultat. Et qui a été entretenu du fait de notre formation médicale avec le numerus clausus, l'internat, etc. C'est bon, ça suffit, c'est assez. C'est une bonne nouvelle pour la personne, mais elle n'en est pas encore là, elle est encore dans ce... Il faut que je fasse et bien faire, vous voyez ? Manque de compassion, manque et même une certaine forme de colère aussi. Puisque quand je vois la petite touffe qui dépasse, ça m'énerve toujours. C'est jamais assez vis-à-vis de moi-même et même vis-à-vis de mes collègues. Et, eh bien, vous comprenez que le chemin de sainteté qui nous sera proposé, qui sera proposé à ce profil, eh bien, c'est au contraire la douceur et la compassion. Voyez la révolution copernicienne, là. La personne, elle pensait que bien faire, c'était bien, justement. C'était ce qu'il fallait faire. Et là, on se rend compte que c'est plutôt quelque chose qui l'enferme. C'est plutôt qu'il serait quelque chose de l'ordre de la recherche de soi qui, au final, même me coupe dans la relation par une forme de colère et de manque de compassion. Et que finalement, le véritable chemin de sainteté, eh bien, ce sera d'être dans cette douceur, cette compassion, puis aussi d'accepter de ne pas toujours tout bien faire. Deuxième profil aussi, que on retrouve souvent pour ceux qui sont dans le faire, eh bien, c'est ceux qui sont dans le prendre soin. Et reconnaissez qu'on est quand même un certain nombre ici présents dans ce domaine. Il faut prendre soin, il faut consoler, être consolateur. Là aussi, c'est comme ça que j'ai remarqué que je pouvais acheter de l'amour auprès de mes parents, auprès de mes proches. C'est en prenant soin, en étant consolateur, que j'ai réussi justement à être aimé. Mais encore une fois, à force de faire ça, j'en oublie mes propres besoins, mes propres désirs. Il y en a d'autres finalement même qui décident à ma place, tellement je veux consoler les autres, je fais un petit peu comme ils souhaiteraient que je fasse. Et donc il y a aussi une forme, vous voyez, à force de toujours vouloir donner, une forme d'épuisement. Hein? Et aussi, il y a un orgueil monstre derrière ça. Il y a une forme d'orgueil qui pourrait penser que c'est un peu moi le sauveur, en fait. C'est moi qui peux consoler. Il n'y a que moi qui peux consoler, personne d'autre. Il n'y a que moi. Et on n'est pas le sauveur. Il n'y a que Jésus qui est le sauveur, justement, on verra. Et donc, le chemin de conversion à ce niveau-là sera, eh bien, un chemin d'humilité. Troisième profil encore, c'est la réussite. Il faut que je réussisse, il faut réussir. Il faut réussir. Il faut montrer que ça marche. Reconnaissons que notre concours, notre profession, est une forme de réussite. Simplement, le problème aussi, c'est toujours aussi la même chose. On est encore dans l'obligation de résultat. La barre est toujours plus haute et c'est jamais assez. Et la grande difficulté, c'est que, eh bien, à force de voir la barre haute, mais il faut que je continue à faire croire que je réussis. Donc même si je passe en dessous de la barre, je vais dire non, je la passe. Non, je vais masquer le fait que je n'arrive plus dans une forme de mensonge. Une forme de mensonge qui peut se manifester de différentes manières. Hein. C'est comme si la vitrine était toute belle, en surface, mais à l'intérieur, mais quel désordre. Et le chemin à choisir, le chemin de sainteté, le chemin de conversion que nous sommes appelés à vivre, eh bien, c'est l'authenticité. Vous voyez, c'est intéressant de voir ces trois niveaux. Reconnaissons que pour la plupart, on se retrouve. Et si on ne se retrouve pas, écoutons un peu frère Luc qui nous éclairera, parce que lui-même, il l'a bien senti, qu'on pouvait avoir parfois un manque de compassion, de la colère, parfois une forme d'orgueil, parfois une forme aussi de manque d'authenticité dans notre pratique et notre relation. Si je dis ça, c'est pas pour nous accabler, encore une fois. Il y a une bonne nouvelle aussi, on verra. Une fois qu'on a bien identifié le chemin, on pourrait dire, de survie, eh bien, on peut laisser derrière soi ce chemin de survie pour choisir justement ce chemin de sainteté, de conversion. Cette révolution copernicienne, vous comprenez qu'on ne va pas la vivre toute seule, on va vivre avec la grâce de Dieu. Là, ça relève d'une prière de visitation pour faire une création nouvelle. Là, pendant la prière ce matin, il était parlé de « Voici que je fais toute chose nouvelle ». Dieu est capable de nous recréer, restaurer, C'est une prière qui est aussi très simple, hein, que vous pourrez retrouver aussi dans le livre. Mais c'est surtout la personne, elle comprend les tenants et les aboutissants. Puis après, cette prière, elle n'est pas non plus magique. Vous imaginez, c'est quelque chose qui va s'installer dans le temps, dans une temporalité. L'essentiel, c'est que je découvre quelles sont mes ornières dans lesquelles je tombe le plus souvent. Et comment, eh bien, je vais essayer d'y rester le moins longtemps possible avec la grâce de Dieu. C'est accepter, encore une fois, que je ne suis pas parfait. Je ne suis pas sans faille. Même peut-être, ce que je croyais être bien, vous voyez, la réussite, et finalement, ça m'amène à quoi? À une forme d'impasse qui est peut-être le mensonge, qui peut être une forme d'infidélité. Si je pensais que le prendre soin était bien, mais finalement, si c'est pour simplement une recherche personnelle, une sorte de repli sur soi, quelque chose qui serait narcissique, quelque chose qui serait dans le don mais qui ne serait pas gratuit, mais alors où est-ce que je vais? Vous voyez? Il s'agit de remettre les choses aussi à leur place. Il ne faut pas avoir peur de cette petite voix, de voir effectivement ce lieu où nous sommes blessés, parce que Dieu aime ceux à qui il peut le plus donner. Ceux qui attendent le plus de lui, nous dit frère Luc. Ceux qui lui sont le plus ouverts, le plus à charge. Qu'il soit pur comme Jésus ou souillé comme Marie-Madeleine et Zachée, peu lui importe. Dieu seul nous connaît au-delà de nos apparences. Dieu seul nous supportera toujours. Alors, frère Luc, voyez, il a des très belles phrases aussi. Il a bien compris que parfois, on pouvait être dans ce... Il faut être sans faille, il faut être sans défaut, sans... Mais voilà ce qu'il dit. Une seule chose crée un obstacle comme invincible à Dieu même, c'est la suffisance, la sensation de plénitude. L'attitude de celui qui veut s'accomplir lui-même, réaliser sa perfection, accumuler ses mérites, achever ses vertus. Nulle place en son cœur pour le désir. Nul vide ne crée un appel, nul manque, nulle fissure par où pourrait passer la grâce. Nul moyen de combler une âme fermée sur une possession jalouse de ses biens spirituels. C'est le pire des dangers, le danger des justes. Car cette mystérieuse justice du royaume est donnée dans la mesure où l'âme a conscience qu'elle ne possède pas la justice. Voyez le chemin de conversion qui est proposé pour ceux qui sont dans cette forme de perfectionnisme. Frère Luc aussi, par rapport à l'orgueil, voilà ce qu'il dit. Ah, il a bien senti, c'était le toubib hein, du coin, du côté de Médérine et en Algérie. Et cette phrase est vraiment bouleversante, hein, il dit « Le jour où j'accepterai avec joie que l'on dise de moi, il n'y a rien de remarquable. Ce jour-là, je serai vraiment humble. » Ce jour-là, je rendrai grâce à Dieu de ce que son levain et son pouvoir semblent avoir mis à ma portée le pain de vie. Et ce jour-là, je pourrai même dans la solitude devenir l'homme pour les autres. Il y a cette phrase bouleversante aussi de frère Luc qui dit aussi « Mon Dieu qui a permis que je sois médecin, je te prie pour tous ceux que par fatigue, égoïsme ou lâcheté, je n'ai pas aidé. » Vous voyez frère Luc qui comprend qu'il n'est pas le sauveur. Comprend que les patients qu'il n'a pas su soigner correctement, ben tout ne dépend pas de lui. Il remet ça entre les mains du seul sauveur qui est le Christ Jésus. Frère Luc aussi, il comprend qu'il doit y avoir une gratuité dans notre manière de nous donner. Que ça ne soit pas toujours dans une recherche de reconnaissance. L'échange de notre part est seulement le don. Le retour du don ne dépend pas de nous. Et c'est là que se joue la foi. Le saut dans le vide. Il ne s'agit pas de croire que l'autre va nous rendre, que nous aurons une récompense. Ce serait vouloir sauver sa vie. Si l'autre ne répond pas, aucune importance. C'est dans l'acte même de donner que nous trouvons la vie. Et frère Luc, par rapport à la question de la recherche d'authenticité, disait aussi cette phrase très belle. Et l'absence de recherche de réussite, accepter de n'être que poussière, de n'être pas nécessaire, d'être vulnérable et d'avoir besoin d'un Dieu qui nous permette de supporter de n'être comme. C'est ce que le Christ nous dit pour trouver la route du paradis. Chercher la découverte de l'amour. La puissance de l'amour, de la non-violence, doit l'emporter sur les peurs, les angoisses, la désespérance. L'essentiel n'est pas de réussir, selon les mesures de la terre, mais de devenir un homme réel, un homme douloureux, plein de joie et créateur de joie. Donc vous comprenez comment, eh bien, ce mécanisme de survie, cette machine à acheter de l'amour, il faut que nous acceptions de renverser la vapeur, de mettre le bon Dieu dans le coup. C'est pour ça qu'une prière de visitation est conseillée au départ, mais après, c'est pas parce qu'on a fait cette prière-là qu'on va pas retomber dans nos vieilles ornières. C'est pas pour ça que certains vont pas retomber dans le manque de compassion ou la colère, ou d'autres l'orgueil, ou l'autre le mensonge. Et c'est là que la bonne nouvelle, c'est que, eh bien, nous avons aussi un extraordinaire sacrement qui nous est proposé, qui s'appelle le sacrement de réconciliation. Le sacrement de réconciliation qui est pas là seulement pour nous donner le pardon de Dieu, mais aussi pour nous donner la grâce pour mieux faire. Et vous comprenez aussi avec ce qu'on vient de dire maintenant, peut-être que dans nos confessions, on va dire des choses qu'avant on ne disait pas. Peut-être que justement on va comprendre que la perfectionnisme, c'est pas tant ça que Dieu attendait, mais finalement la douceur et la compassion. Et peut-être que je vais pouvoir m'examiner aussi à ce niveau-là, ou sur la question de l'humilité, ou la question de l'authenticité. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes des pécheurs perpétuellement pardonné. Le plus grave, c'est pas de retomber dans ses ornières, mais c'est d'y rester le moins longtemps possible. C'est de s'en rendre compte aussi quand on tombe dans ses ornières. Parce que vous comprenez aussi que ça, c'est non seulement un mécanisme de survie, mais ça peut être aussi un mécanisme mortifère. Qui peut aussi conduire, au final, puisque c'est une sorte de mécanisme d'épuisement, à une forme de burn-out. Qui peut aboutir, même sur la part de responsabilité dont je vous parlais, même à un moment, une sorte de choix d'autodestruction. Vous comprenez comment on est passé, de manière plus subtile, d'une blessure initiale à quelque chose que j'ai entretenu par une sorte de machine à acheter de l'amour, que j'entretiens encore maintenant, mais qui peut m'empêcher finalement d'être pleinement moi-même. Et il n'y a que Dieu qui va pouvoir me permettre de sortir de ce mécanisme de survie où je suis tout le temps un petit peu la tête dans l'eau, parfois je prends une petite bouffée, mais être dans un chemin de vie, de sainteté, et pas un chemin de survie. Pour un chrétien, nous dit frère Luc, le plus important est de constater son impuissance à se défaire du mal. Quand on a repéré dans quel mécanisme de survie on est, vous savez, on n'en sort pas comme ça, hein. On met toutes ses vies d'une certaine manière à en sortir. Mais, justement, c'est le point de départ de l'appel au Sauveur. C'est là où on se tourne vers Dieu en disant, mais Seigneur, j'y arrive pas là. Viens m'aider à faire cette révolution copernicienne. Mon premier sentiment, ce serait peut-être de me sentir désespéré. Je découvrirai enfin que ce n'est pas moi qui me sauve. C'est encore frère Luc qui dit ça. Je commencerai à apprendre la vraie pauvreté, la béatitude de la pauvreté qui me permet d'acquérir de Dieu l'unique nécessaire, son esprit, son amour, son pardon. Mais pour cela, il faut du temps. Et on rentre dans une temporalité, hein. Il me faudra recevoir beaucoup de pardon pour découvrir que je suis vraiment aimé. Ayant fait longtemps l'expérience de l'amour pardonnant de Dieu, qui continue de m'aimer malgré mon péché, et même à cause de mon péché. Je pourrais commencer à me pardonner à moi-même et aux autres, à aimer correctement moi-même et les autres. Frère Luc a aussi cette belle parole. Bienheureux les pauvres de cœur, les désappropriés d'eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Et voilà que s'ouvre devant lui la voie royale de ceux et celles qui savent que rien n'est jamais perdu, que ça vaut toujours la peine de se remettre en marche. Malgré tous les écueils, les chutes, le croyant pécheur marche dans la paix. Voyez, faut pas que nous soyons accablés à voir notre blessure initiale, peut-être notre mécanisme de survie. La bonne nouvelle, c'est que justement, Dieu peut mettre de l'amour là où il a manqué de l'amour. Dieu peut nous sortir aussi de ces vieilles ornières dans sa miséricorde, dans le sacrement de réconciliation. Au jugement, ce qui nous sera demandé d'abord, as-tu cru que Dieu t'aimait toi ? As-tu cru que Dieu t'a attendu, connu, désiré toi jour après jour ? Quand j'arrive à croire que Dieu m'aime, moi, cet être dont seul j'ai su mesurer le poids, je connaîtrai la mesure de son invraisemblable amour. Dieu nous aime d'un amour infini, inconditionnel. Il est celui aussi qui nous restaure. Comme je le vous disais aussi dans l'homélie ce matin, comment aussi l'oraison, la prière, l'adoration est un lieu où c'est un simple regard orienté vers Dieu, où Dieu aussi me regarde, mais c'est un lieu aussi où il me restaure. Il me restaure. Il va aussi éclairer, il va me permettre de voir quand je tombe dans certains écueils, dans certaines ornières, pour pouvoir y rester le moins longtemps possible. Voilà ce que j'avais à vous partager, je suis même dans les temps, je crois. Donc, on va passer au temps des questions-réponses, on a une demi-heure devant nous.
Merci encore pour cette intervention. Je pense qu'on peut là aussi remercier le Père Buet. Alors, je vais juste vous passer une petite consigne. Essayez le moins... Enfin, si vous avez besoin d'une psychothérapie, on peut en parler. Venez me voir. Mais essayez plutôt de poser des questions plutôt que des témoignages pour que tout le monde puisse participer. Et toujours de la même manière, vous vous levez, vous vous présentez. Merci.
Je pense que vous avez compris que ce n'est pas une psychothérapie, hein, là, ce qu'on a présenté. C'est vraiment un chemin de conversion et donc c'est une proposition d'accompagnement spirituel. Faisons attention justement au sens des mots et où on se situe là. C'est vraiment un chemin de conversion.
Oui, donc vous avez parlé du burn-out spirituel, mais nous sommes une assemblée de médecins et le burn-out lié à la surcharge de travail, comment faire ?
C'est là où je pense que une des causes du burn-out aussi, c'est j'arrive pas à dire non. Il n'y a pas que ça, hein. Mais il y a une des choses, il y a un moment aussi, est-ce que je suis capable aussi de dire non à toutes les sollicitations qui me sont faites ? Ça, c'est un point important dans notre vie professionnelle. Parce que la coupe aussi, à un moment, peut déborder. On est tellement sollicité que, eh bien, il y a aussi le fait de vouloir faire tout seul. Il y a le principe de subsidiarité. Est-ce que je sais déléguer ? Est-ce que, justement, j'ai tellement d'orgueil à croire que je fais mieux que les autres ? Est-ce que je pense que c'est jamais assez bien fait par les autres que je fais tout seul ? C'est une des causes aussi du burn-out. C'est, est-ce que aussi je sais me reposer, quand bien même j'ai un travail important, est-ce que aussi je sais prendre le temps de m'arrêter ? Est-ce que le repos sabbatique, c'est pas de la blague, vous savez, le septième jour, il se reposa. C'est deux tours d'horloge, c'est-à-dire 24 heures. C'est prendre ce temps-là chaque semaine. Est-ce que tous nous le prenons, ce temps-là ? Pose la question en conscience. Déjà, ce temps où je fais autre chose, je ne pense pas au travail, où vraiment je me repose quand je dois me reposer. Est-ce que je me permets justement d'écouter, d'avoir accès aussi à mes désirs profonds qui me permettent à un moment, eh bien, tout simplement de souffler, d'arrêter d'être toujours branché sur mon smartphone ou autre chose, ou sur mon ordinateur. Ou moi, j'ai des collègues, parfois, ils reviennent à la maison avec leur ordinateur. Ils continuent à travailler à la maison. Il y a un moment, il faut savoir arrêter. Vous voyez ? Effectivement, notre travail est un travail qui nous appelle à avoir, frère Luc aussi, il avait une centaine de consultations par jour. Frère Luc aussi, effectivement, il y a un moment, il en avait ras-le-bol, il fermait la porte, presque il claquait la porte, disant, mais ça y est, c'est... Et puis, on est toujours sollicité. Mais c'est vrai que c'est compliqué à un moment de dire que, eh bien, le travail que nous avons fait, acceptons qu'il ne soit pas non plus complètement terminé dans la journée. Acceptons que nous n'ayons pas, peut-être pas pu faire tout ce que nous souhaitions faire dans notre dans ce qui nous était aussi demandé. Je pense que ça ne résout pas la question de la charge de travail, mais moi, parce que du travail, il y en aura toujours. Vous savez, comme dit Jésus, des pauvres, vous en aurez toujours. Des malades, il y en aura toujours. Hein. Eh bien, aussi, moi, comment aussi je me positionne pour pouvoir être dans une vie et non pas une survie. Pour que mon exercice professionnel soit pas seulement viable ou une survie, non, une vie où j'ai de la joie aussi à m'épanouir. Parce que le risque, c'est qu'à la fin, vous l'avez compris, c'est qu'il y a un véritable épuisement et à la fin un ras-le-bol. Puis à la fin aussi, on n'est même plus à l'écoute du patient.
Comment rentrer dans ce chemin de conversion quand on vit avec des collègues qui attendent de nous ce perfectionnisme ? Quand on brigue un poste, quand il y a le médico-légal qui s'en mêle, quand on n'est pas tout seul dans cette histoire ?
Bonne question. C'est là où nous avons, je pense, aussi un témoignage aussi à donner. Un témoignage à donner aussi dans notre manière aussi de prendre soin de l'autre. Tout à l'heure, je vous montrais la personne qui est identité, communion et participation dans notre manière de prendre soin. Bien, pour moi, la vie est sacrée, je ne la détruis pas. Pour moi aussi, eh bien, je m'occupe de la personne non pas parce que c'est une personne aimable, mais tout simplement, je la soigne pour ce qu'elle est. Voilà, c'est pas parce que c'est, je sais pas, une tati Daniel ou je ne sais quoi que je vais pas aller la voir. Non, je la soigne pour ce qu'elle est, non ce qu'elle fait, ce qu'elle m'apporte, où je ne suis pas dans une recherche de reconnaissance aussi. Et puis aussi, la vie aussi du patient a de l'importance pour moi. Et donc, ma manière de me positionner comme soignant, de montrer comment aussi je prends soin de la personne, peut être aussi résilient pour le patient, mais aussi peut-être aussi un témoignage aussi dans le milieu professionnel où je travaille. Et puis, je crois aussi que ça fait du bien, même s'ils ne le comprendront peut-être pas, mais à un moment, effectivement, on touche la question de l'affirmation de soi là, mais à un moment de dire non à un chef qui nous en demandera toujours plus, et à un moment de dire ben non, là, c'est pas possible. Là, non. Ce week-end-là, non. Non. Je suis désolé, mais non. Mais apprendre à dire non. Mais c'est bête, mais c'est bête et en même temps c'est simple, voyez. Il y a une manière aussi de se. Du coup, ça va être même comme un électrochoc. Hein. Je dis pas qu'il va nécessairement le comprendre, mais dire mais mince, waouh. Elle ou lui se permet de faire ça alors que moi je me suis jamais permis. Alors peut-être que justement il va manquer de compassion, peut-être qu'il va rien comprendre, peut-être que ça va le mettre en colère. Mais au moins là, vous arrivez à comprendre aussi dans quoi il est là. Vous voyez, aussi là, c'est pas. Vous comprenez que tout ce qu'on a vu, c'est je comprends le patient que j'ai en face de moi. Je me connais moi-même, mais je comprends aussi mes collègues aussi qui sont autour de moi. Vous voyez, j'ai aussi un regard du coup aussi bienveillant vis-à-vis d'eux parce que je comprends que ce comportement hyper exigeant, il vient pas de nulle part. Probablement que lui-même aussi, il a vécu ça. Cette forme d'une attente très grande. Et peut-être que c'est une bonne nouvelle que j'ai à lui dire. Mais tu sais, mon vieux, il n'y a pas d'obligation de résultat. Jésus t'aime tel que tu es, non pas pour ce que tu fais. Mais c'est bien, ça suffit, c'est assez. Détends-toi. Mais non, mais c'est vrai. C'est une bonne nouvelle aussi pour notre milieu professionnel, une manière de se comporter aussi, non pas « ouais, je suis le meilleur, je joue des coudes », je... Non, je rentre aussi dans ce chemin de conversion où j'accepte aussi de ne pas tout maîtriser, je ne suis pas dans la toute-puissance, je ne suis pas effectivement sans faille, et j'essaie de trouver toujours cette juste distance. Je pense qu'il y a c'est un témoignage justement dans l'être, et qui est encore plus révélateur aussi justement de ce que si aussi on vit ce chemin de conversion, waouh, lui ou elle, il agit pas comme tout le monde justement. Il a un agir comme le Christ justement, comme. Et ça interpelle.
François, psychiatre. Mais je suis médecin, donc je sais ce qu'il me faut. Je n'ai besoin de personne pour me soigner. Est-ce qu'il me faut, est-ce que je peux me soigner par moi-même ? Telle est ma question. Car en tant que médecin, je peux faire tous les examens complémentaires moi-même. Je peux faire du sport le matin. Je connais aussi la spiritualité, donc je peux faire des parcours psychologiques, mais je peux faire aussi des parcours spirituels et des retraites spirituelles. Alors, est-ce que c'est bon, ce raisonnement ? Est-ce que je peux me soigner par moi-même ?
Merci pour cette question, François, qui contient déjà sa réponse, on sent. Mais c'est très bien, merci de me permettre du coup. Vous comprenez que là, ce que nous avons aussi mis en évidence, il y a quelque chose sous-jacent qui est une sorte de point d'orgueil. Je me construis à la force du poignet. Tout seul, moi tout seul. Et en fait, justement, tout ce chemin de conversion, c'est aussi d'accepter que je ne vais pas réussir à voir aussi... c'est pas parce que je vous ai fait aussi l'exposé que ça va être limpide, ou c'est avec l'aide d'un frère aussi dans la foi que je vais peut-être pouvoir voir où est-ce que j'en suis dans mon chemin de conversion. C'est aussi avec l'aide d'un frère que je vais lui dire aussi, est-ce que tu veux bien prier pour moi, s'il te plaît, sur cette part d'innocence qui a été blessée ? Prie, je ne vais pas prier. C'est ça aussi la beauté de la prière des frères. C'est quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux et tout ce qu'ils me demanderont, je leur accorderai. Je ne m'en sors pas tout seul. C'est par la prière d'un frère baptisé que, eh bien, la grâce de Dieu me rejoint. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend, oui, mais c'est aussi quand nous sommes deux ou trois réunis en son nom. Et il y a aussi, ben voilà, j'ai parlé aussi de la part de responsabilité, demander à un frère prêtre de me libérer, soit dans le sacrement de réconciliation, soit en dehors, de ce lien qui m'entraîne toujours en arrière. Voyez ? Et puis aussi, eh bien, ce chemin de conversion, vous comprenez aussi qu'on n'arrive pas non plus à le trouver tout seul. Et puis aussi, on va de mieux en mieux l'identifier. Mais comment, justement ? Avec l'aide d'un frère aîné qui va me permettre de mieux identifier les choses et de me permettre, encore une fois, de rester le moins longtemps possible dans mes vieilles ornières pour en sortir le plus vite possible. Donc effectivement, ce chemin de conversion est à l'opposé d'une construction qui serait moi tout seul, à la force du poignet, ce point d'orgueil, mais au contraire, eh bien, d'une petite voix d'enfance à l'école de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de confiance et d'abandon. Confiance dans cette famille église fraternelle qui m'est proposée, et puis abandon dans ses bras de père accepté. Je ne suis pas le bon Dieu, je ne suis qu'une créature, et je lui fais confiance aussi. J'accepte de ne pas tout maîtriser, je lâche prise aussi dans ce Père qui m'aime d'un amour inconditionnel et qui m'aime pour ce que je suis et non ce que je fais. C'est ça aussi la bonne nouvelle.
Merci mon père pour votre conférence. Au risque d'être un peu redondante, je rebondis encore sur la question de ma consœur par rapport à la surcharge de travail et par rapport à l'importance du repos. Enfin, c'est vrai quand même que j'ai l'impression que quand on travaille à l'hôpital ou quand on s'engage dans ses études, on accepte quand même certaines règles du jeu, ou en tout cas on se lance dans un système, on se lance dans quelque chose qui est déjà organisé, qui est déjà établi comme cela. Ou par exemple, voilà, on nous demande de travailler le dimanche, ou on nous demande de... il y a des malades qui sont quand même là, il y a des choses qui sont prévues, on ne peut pas dire à 17h, je raccroche, je ferme, et vous demandez à quelqu'un d'autre, quoi. Enfin, on a des responsabilités. Donc, vu qu'en face, on n'a pas un chiffre d'affaires ou un tableau Excel, mais on a un patient, on a des vies, on a des personnes, justement. Comment est-ce qu'on... Ce repos, justement, dont vous parlez, on le prend quand, réellement ? Est-ce qu'on peut vraiment dire non ? Désolé, je raccroche, je suis en grève. Est-ce qu'on peut dire vraiment non, je ne travaille pas ce dimanche ? Est-ce que je ne travaille pas le dimanche parce que je suis chrétienne et que c'est le jour du sabbat ?
Justement. J'ai pas dit ça. Je fais des gardes aussi comme tout le monde, aussi le week-end. Mais c'est pas parce que je fais des gardes le week-end que je me repose pas les autres week-ends. Et la autre chose aussi, c'est qu'il y a le repos hebdomadaire, mais il y a, il me semble aussi, le repos quotidien, qui pour moi est vécu dans l'oraison. Personnellement, je vis 2 heures d'oraison par jour, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Je pense pas être, c'est un charisme qui est donné, une grâce reçue, je pense pas être de ceux qui sont les moins occupés. Mais ce temps-là, si vous voulez, bon, qui est pour moi de 2 heures, mais parce que je suis enfant de Notre-Dame de Vie, mais qui peut l'être de 1 heure pour quelqu'un qui est engagé dans la vie, c'est déjà très bien dans la vie chrétienne. Commencez pas tout de suite par 1 heure, commencez doucement, 1 quart d'heure, puis 1/2 heure, faites-vous accompagner. Hein. Mais cette heure d'oraison, si vous voulez, dans la journée, non seulement c'est un temps où je me repose en Dieu, où je recharge les batteries, mais c'est aussi, comme dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, oui, parfois ça peut être sec, ça peut être aride, ce temps d'oraison, mais après la lumière brille sous mes pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aussi la lumière va m'être donnée aussi par l'Esprit Saint pour pouvoir aller aussi à l'essentiel. L'Esprit Saint va aussi nous inspirer dans nos faits, dans nos gestes, dans nos prescriptions pour aussi ordonner les choses et aller à l'essentiel et ne pas nous perdre dans les détails. Il faut croire aussi en cette, non seulement ce ressourcement pendant la prière, mais aussi cette lumière qui nous est donnée tout au long de la journée grâce aussi à ce temps de prière. Alors oui, effectivement, encore une fois, le travail, nous en avons tous jusque-là. Mais aussi, il y a des choix, il y a des priorités aussi. Il y a des priorités, puis il y a encore aussi, une fois, une forme de... alors c'est peut-être difficile quand on est interne parce que parfois on nous refile tout ce que les autres ne veulent pas, mais il y a quand même le principe de subsidiarité, d'une partage aussi des... Nous, c'est pour ça qu'en soins palliatifs nous travaillons beaucoup en pluri et interdisciplinarité pour ne pas porter seul la charge 1 à 2 décès par jour là où nous sommes, parfois 3. Pour pouvoir, si vous voulez, accompagner tant de souffrances humaines, il faut porter ensemble. Le gros risque, c'est de vouloir porter seul la charge de travail qui nous est confiée. Et c'est là où il faut effectivement, je crois beaucoup à cette éthique de communion, ton accomplissement et mon accomplissement. Et donc dans ma manière aussi de décider les choses, c'est un bien pour toi, mais c'est aussi un bien pour moi. Comment toute décision prise dans le service fait que chacun en ressort aussi grandi. Quand je dis ça, ben ça peut peut-être paraître un petit peu idéal, mais en tout cas, c'est ce que nous essayons de vivre à la clinique Sainte-Élisabeth. Et mes horaires, quand j'y suis, c'est vrai que c'est des horaires, j'y suis de 9h à 19h, mais pour moi, ça me paraît raisonnable.
Je voulais poser la question de l'introduction des ordinateurs dans nos salles de consultation, qui, de mon point de vue, nous a fait perdre le regard avec nos patients que l'on reçoit. Le burn-out est quelque chose qui est plutôt en voie d'augmentation, plutôt qu'en voie de régression. Enfin, vous répondrez peut-être avec les statistiques que je ne connais pas bien. L'informatique, qui à la base devrait nous servir de support et donc nous aider à être davantage disponible, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse et qu'en plus de ça, on y perd le regard et donc la relation avec nos patients. Première question, le burn-out, c'est un fléau qui s'aggrave. Je n'ai pas, c'est ma question. Et la deuxième, est-ce que l'informatique, comment déceler les pièges qui vont au contraire nous enfermer dans le schéma que vous avez dénoncé et comment déceler, comment en sortir?
Oui, c'est vrai que l'informatique prend énormément de temps, mais quasiment actuellement, on passe autant de temps ou au moins 1/3 du temps devant l'ordinateur et 2/3 de temps devant le patient, c'est sûr, ou dans les soins. Donc c'est aussi autant de temps peut-être qui nous a été aussi rajouté sur notre temps de travail, bien sûr. Oui, effectivement, le burn-out est un phénomène en augmentation et même en explosion. Pourquoi ? Parce que eh bien, nous sommes, vous le comprenez aussi, dans une perte de sens. Et nous sommes tout particulièrement exposés. Je pense que vous avez compris que les soignants, nous sommes en première ligne pour être un jour grillés. Et cette présentation, c'est même si j'ai dit que le burn-out pouvait être l'occasion d'un renouveau pour justement vivre cette avec ce vide appelé justement Dieu, mais le mieux, c'est d'être quand même dans le préventif. Non, mais c'est vrai. Le but quand même, c'est d'agir avant de tomber dans le burn-out, parce que le burn-out, c'est vraiment pas drôle. C'est une forme d'épuisement complet et on met plusieurs années avant de s'en relever. Et donc, je pense qu'il... dans un monde qui est en perte de sens, mais au sens trois significations, justement, sens au sens de signification, sens au sens de direction, et sens aussi de cette corporité dont je vous ai parlé, ces cinq sens, on a du mal aussi à vivre ce chemin d'unification, d'humanisation. Eh bien, il est important de rentrer dans ce chemin de conversion. C'est pas quelque chose. Je pense que le burn-out est révélateur d'un monde sans Dieu, d'un monde justement qui veut se débrouiller tout seul, d'un monde qui croit qu'il est le seul sauveur. Et justement, comme dit le pape François, des fois, ça fait du bien de se prendre une bonne glissade pour pouvoir justement après se relever, mais pas tout seul, justement, avec la grâce de Dieu.
Raphaël de Lyon, je suis médecin à Lyon. Vous avez parlé tout à l'heure des maladies de l'âme. Alors, est-ce qu'éventuellement vous pouvez développer cela et dire ce que vous entendez par maladie de l'âme ?
Je ne crois pas avoir parlé de ça, mais parce que le père Marie-Eugène dit cette phrase très belle : l'âme n'est jamais malade. Donc, en bon fils du père Marie-Eugène, je ne parle pas de maladie de l'âme. Parce que je pense qu'il y a toujours effectivement, au plus profond du cœur de l'homme, cette fine pointe de l'âme, comme dit Jean de la Croix, où nous sommes capables justement de laisser derrière soi tout choix de mort pour choisir la vie, tout choix de haine pour choisir l'amour et tout choix de mensonge pour choisir la vérité. Je pense justement, et c'est ça qui est très touchant, même parfois avec des personnes qui sont profondément marquées dans leur histoire humaine, comment il y a cette possibilité, ce lieu de liberté, de choisir encore avec le Christ un chemin de libération intérieure, d'accepter d'être consolé par le Christ et d'être libéré par lui. Après, vous comprenez que notre histoire est marquée par des blessures, et aussi, une part, il y a la machine à acheter de l'amour, là ça commence à être un petit peu notre part de responsabilité, et puis nos choix que nous pouvons poser aussi, et qui entraînent notre part de responsabilité. Notre histoire est marquée aussi par des drames que nous subissons et que parfois nous pouvons aussi choisir. Comme dit Christian de Chergé, j'ai suffisamment vécu pour me savoir responsable du mal qui se fait dans le monde. Et donc il y a un moment aussi, c'est accepter d'être sauvé, d'avoir besoin d'un Dieu, d'avoir besoin d'un sauveur, d'ouvrir toute porte. Quand on a dit, on a répété plusieurs fois, n'ayez pas peur pendant ce week-end. N'oublions pas comment le Christ, comment Jean-Paul II a terminé cette phrase, n'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ. Là, dans ce mécanisme de survie dont je vous ai parlé, on était plus dans une logique d'enfermement, de repli sur soi. Or, le chemin de sainteté qui s'ouvre à nous de vie, c'est au contraire un chemin d'ouverture à l'autre, dans la gratuité, et aussi un chemin dans un compagnonnage aussi avec le Christ, qui est toujours là aussi à nous aider à nous relever.
Vous avez parlé de la reconnaissance et finalement des problèmes qui pouvaient y avoir en fait à rechercher cette reconnaissance. Est-ce que vous pensez pas aussi qu'il y a une partie où il n'y a pas plus assez de reconnaissance finalement dans les soignants et que ce manque de reconnaissance peut créer un manque de sens et entraîner des burn-out ?
Ben là, on touche du doigt, du coup, effectivement, c'est là où je vous dis qu'on touchait aux autres. Il y a les autres 20% que je ne vous ai pas parlé et que je n'ai pas développé. Mais par rapport à la blessure, mon avis n'a pas d'importance. Je pense qu'il y a ça dans ce manque aussi de reconnaissance aussi. J'ai beau dire j'ai trop de travail, j'ai beau dire j'en peux plus, c'est encore marche ou crève en fait. Donc il y a effectivement quelque chose de l'ordre de quelque chose qui nous met face à une forme d'inactivité. Je ne fais rien, mais à ne rien faire, je me replie encore plus sur moi-même. Et c'est mortifère, encore une fois. Hein. Et là, eh bien, il faut savoir à un moment poser aussi le choix juste. Pourquoi aussi, enfin, j'entends ce que vous disiez tout à l'heure, nous sommes dans des institutions qui sont ainsi faites, où il faut absolument réussir, il faut absolument... Mais pourquoi, je crois que c'est aussi ça la doctrine sociale de l'Église, c'est aussi proposer des lieux qui soient des lieux où le matin nous avons de la joie à aller travailler. Des lieux justement où eh bien nous sommes nous-mêmes aussi considérés comme des personnes avec comme identité, communion et participation. Je pense que c'est toute une philosophie des soins, effectivement, que nous avons aussi à défendre. Je pense que c'est d'autant plus difficile quand on est seul dans une institution. C'est sûr que j'ai la chance, j'ai la grâce de travailler dans une institution catholique, chrétienne, où effectivement tout le monde est sur la même longueur d'onde. Du directeur à la directrice des soins, au médecin-chef. Mais c'est quelque chose qui s'est construit aussi dans le temps. C'est aussi des choix justes qu'on a posés. C'est le travail de 10 ans aussi pour en arriver là. C'est aussi... Si on reste dans une sorte d'immobilisme et je fais rien... Ou alors je choisis le choix juste et à un moment je dis non, j'en ai assez de ce système aussi qui est étouffant et qui est un mécanisme de survie et pas de vie. Eh bien, il y a un moment, il faut effectivement que là où on travaille, il y ait une révolution copernicienne aussi qui soit vécue.
Voilà, alors on n'a plus beaucoup de temps. On va prendre une dernière question collective. Je m'excuse auprès des personnes à qui j'ai dit qu'on n'avait plus de temps pour prendre leurs questions. Donc une dernière question collective. Après, on passe au groupe de partage pour que vous puissiez échanger entre vous sur ces thèmes-là.
Voilà, tu as pointé du doigt en fait nos blessures psychologiques en donnant une réponse essentiellement spirituelle. Est-ce que c'est pas dangereux de tout spiritualiser ? Et est-ce qu'il n'y a pas une réponse technique ? On a vu hier un petit peu toutes ces thérapies qui existent, toutes ces thérapies nouvelles. Est-ce que le fait d'être chrétien, on peut tout spiritualiser ?
Pour moi encore, ça ne s'exclut pas, hein. Mais ce que je vous ai présenté là, pour moi, ce n'est pas de la psychologie, c'est de l'anthropologie. Et c'est important, hein. C'est de l'anthropologie, c'est qu'est-ce que l'homme, comment il fonctionne, quelles sont ses blessures. Et c'est aussi de la théologie morale, quand je vous ai parlé aussi des actes intrinsèquement mauvais, comment il pouvait y avoir des liens spirituels, qu'il y a aussi des conséquences d'ordre pastoral aussi derrière, hein. Donc c'est important, je me situe dans un plan spirituel. Ce n'est pas parce que moi, comme pasteur, je donne cette réponse d'ordre spirituel qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un accompagnement à côté d'ordre psychothérapeutique, bien sûr, avec l'aide d'un psychologue, en particulier quand quelqu'un est en train de vivre un burn-out, quand quelqu'un est aussi peut-être en train de vivre un pré-burn-out. La supervision, c'est aussi pour éviter normalement aussi ce genre de d'épuisement, hein. Donc ça ne s'exclut pas, c'est complémentaire. Après, on peut aussi très bien... c'est pas parce qu'on donne un chemin de conversion qu'on exclut toute piste d'ordre psychologique. Simplement, justement, au contraire, je distingue. Mais pour mieux unir, là, je vous ai développé le chemin de conversion qui pour moi, est important. Après, ça n'empêche pas que, encore une fois... Si on a besoin d'avoir recours à un psychologue, on puisse le faire. Mais justement, lui, il n'abordera pas ces questions-là. Il n'abordera pas la part de responsabilité. Il n'abordera pas non plus ce chemin de conversion que je vous ai présenté. Chacun, justement, aussi son niveau. Hein. Il s'agit effectivement d'avoir parfois plusieurs intervenants. Bien sûr, une psychothérapie de soutien est importante, hein. Mais justement, il faut distinguer, mais aussi pour unir. Et il est normal aussi que le chemin que j'ai pu aussi proposer, qui est un chemin d'unification et d'humanisation, donne l'impression parfois de toucher certaines questions qui on pourrait penser être d'ordre psychologique. Mais c'est surtout que je vois la personne dans son histoire faire une anamnèse, et surtout aussi le Dieu est capable de rejoindre tous nos drames humains. Pourquoi ? Parce que lui-même a vécu ce drame divin en sa personne à travers le Christ. Donc je me dois aussi d'être témoin, c'est aussi ça la bonne nouvelle, que aucune histoire humaine ne peut être rejointe par le Christ, et qu'un chemin de conversion est possible non pas seul, mais avec sa grâce et avec son aide. Ce qui n'exclut pas effectivement que d'autres professionnels compétents dans leur domaine, de l'ordre de la psychologie, fassent des psychothérapies ou autres.
Merci au père Buet, qu'on peut encore applaudir. On vous propose maintenant de passer en groupe de partage. Je passe la parole pour vous expliquer comment ça se passe.